Easy Head pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure en eau profonde, voici Nanette. Salut Nanette.
Salut Tiffany.
Quentin est là également pour sa chronique géopolitique. Salut.
Bonsoir.
Pierre-Antoine pour sa chronique politique. Salut.
Salut.
Salut aussi. Et en fin d'émission, vous retrouverez bien sûr l'agenda de votre soirée présenté ce soir par Marin, notre stagiaire. Salut Marin.
Bonsoir.
Et la bulle sonore en fin d'émission. Tout le monde est à son poste. C'est parti. On est mardi et donc on retrouve le billet d'humeur, que dis-je, le torpillage en règle de Nanette.
« To be or not to be, that's the question », disait le grand Shakespeare par la bouche de son héros Hamlet. Shakespeare donc remis au goût du jour par le Globe Theatre de Londres, qui prévoit d'interpréter la pièce Hamlet dans une très prochaine tournée mondiale en septembre 2015, à l'occasion du 450e anniversaire de Shakespeare. Et oui, ça lui fait prendre un sacré coup de vieux. Hamlet, tragédie politique de 1601, met en scène ce prince du Danemark qui, pour venger son défunt père, se décide à tuer son oncle Claudius, apparemment coupable, tout cela en jouant le fou. De nombreux pays recevront la troupe et parmi eux la Corée du Nord. Ironie du sort, Hamlet c'est un peu l'actuelle Corée du Nord mise en drame shakespearien. Cet événement fait en effet l'objet de multiples contestations, en particulier de la part d'organisations non gouvernementales, car c'est le dévoilement public et osé de tabous, surtout politiques et sociaux. Mais ne nous emballons pas à parler tout de suite de provocation. Certes, on retrouve beaucoup d'échos comme le fou qui dirige le pays, la mort de l'oncle, la soif du pouvoir, mais c'est juste un manque de chance. Shakespeare ne pouvait pas deviner que sa pièce allait attiser les tensions. On invoque donc des raisons de sécurité, mais n'oublions pas que nous parlons de théâtre. Tout ce qui se passe sur scène, c'est du faux. Fausses larmes, fausses armes et surtout faux cadavres. Non mais on a l'impression qu'on leur envoie une troupe de forces spéciales russes. Alors on est en droit de se demander comment se fait-il que le pouvoir nord-coréen laisse entrer ce genre de pièce chez lui. Ne craint-il pas une révolte de la population ? Parce que ça fait un peu lâcher de bombe dans un trou d'obus, n'allons pas dire que c'est naïf. Eh bien, j'ai envie de dire que quand on est capable de faire croire à tout un pays qu'on a envoyé un astronaute de 17 ans sur le soleil dans un aller-retour de 4 heures, on se dit qu'on peut tout faire. Et puis, les Nord-Coréens ont été conditionnés depuis leur plus tendre enfance. Ce n'est pas par hasard si c'est l'un des seuls peuples à chanter les louanges d'un psychopathe. Je pense à ce propos qu'il ne serait pas étonnant d'assister très prochainement à un remake d'Hamlet spécial Corée du Nord, avec des noms plus asiatiques, un peuple heureux, des musiques populaires et le grand méchant qui le joue le rôle du gentil. C'est comme qui dirait Marcus, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark.
Merci Nanette pour cette amuse-gueule. Voilà, venue l'heure d'entrer dans le scaphandrier. Je suis à ALIA, ça veut dire Association Ligérienne d'Addictologie, avec Nicolas Hélin, éducateur spécialisé et intervenant en thérapie familiale, Françoise Federkeil, thérapeute familiale, et Grégoire Poupin, infirmier, pour parler de l'usage des drogues chez les jeunes. Alors, juste une petite étude, d'après l'INPES en 2010, les 15-30 ans expérimentaient davantage les drogues illicites que leurs aînés. Près de 45% d'entre eux avaient déjà consommé du cannabis, 8,7% des jeunes avaient testé les poppers, 5,5% la cocaïne, 5% les champignons hallucinogènes et 4,5% l'ecstasy. D'après ces chiffres et d'après votre expérience ici à ALIA, est-ce que vous pouvez dire que la consommation de produits a évolué chez les jeunes depuis 5-10 ans ?
A priori, les sociétés évoluant, les consommations évoluent aussi et les modes de consommation restent plus ou moins les mêmes. Après, effectivement, ne serait-ce que pour prendre un produit comme l'alcool, on a pu observer à une période des consommations importantes, ce qu'on appelait le binge drinking, donc des consommations importantes, momentanées, et presque compulsives d'alcool, pour atteindre des états d'ébriété rapides, avec du coup des risques par contre associés importants, notamment de type coma éthylique. Ce qu'on observe en tout cas, c'est que voilà, avec des fois des mêmes produits, les modes de consommation, en tout cas la manière d'utiliser le produit à un moment donné, en fonction de mode, en fonction de code dans certains groupes, favorise effectivement une nouvelle utilisation avec des nouveaux risques associés. C'est un constat qu'on peut avoir là pour quelque chose d'aussi, pour un produit aussi disséminé et connu que l'alcool, par exemple.
Le binge drinking, on en a beaucoup entendu parler. C'est encore quelque chose qui est à la mode.
Bon, ce qu'on commence, je dirais que c'est comme vient de dire un peu mon collègue, c'est des phases, hein, avec des moments d'usage peut-être plus particulier dans une façon de consommer un produit. L'alcool aujourd'hui, ce qu'on repère, c'est des nouveaux usages qui sont en train d'éclore, notamment par exemple, je ne sais plus quel est le terme exact, mais on a des jeunes qui viennent nous trouver, qui nous parlent de ces nouveaux usages où on a une contenance importante, et puis le but du jeu, c'est de se faire des défis, notamment au travers d'Internet, à ceux qui vont essayer de le boire le plus vite, la plus grosse quantité, et de continuer à tenir ainsi, quoi. Alors je ne sais plus le nom exactement de cet usage-là, mais finalement c'est toujours le même produit, mais c'est la façon de le consommer, la façon d'être dans cet usage-là diffère. Ce qu'on peut quand même observer sur la question de l'alcool de façon globale, et ça c'est le baromètre santé qui nous le disait en 2010, c'est que les usages d'alcool quotidiens, hommes et femmes, ont quand même énormément diminué ces dernières années. Alors bon, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en ce sens, mais voilà, ça a évolué.
C'est vrai que les consommations, elles se stabilisent. Par contre, ce qu'on va repérer, c'est des consommations de plus en plus précoces chez des jeunes de plus en plus jeunes. Donc ça, effectivement, c'est problématique.
Quel âge, quand vous dites de plus en plus jeunes?
Il suffit de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les services d'urgence. C'est pas rare aujourd'hui. Alors là, je parle au niveau du territoire français, mais de voir des jeunes qui sont dans des états d'ébriété très avancés. Ils ont entre 10 et 12 ans. Donc nous, ce qu'on repère aussi, c'est dans nos centres de soins, on commence à, depuis 3-4 ans, à voir apparaître des jeunes dans des demandes autour de l'âge de 13 ans. Donc ça, c'est quand même suffisamment significatif pour le relever. Et puis d'autre part, Grégoire tout à l'heure parlait de contexte. C'est vrai que suivant les périodes, suivant les années, suivant les époques, il y a des effets de mode. Ce qu'on peut repérer quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a certains produits qui correspondent aussi à la société actuelle où on nous demande d'être le plus performant possible. Donc on va retrouver ça dans certains produits qui vont être des stimulants, donc pour être au top. C'est ce que la société partout nous demande finalement à tout à chacun, et donc les jeunes ne sont pas à l'écart de ces demandes, et ça va transiter par ces produits qui vont répondre à cela, quoi.
On parle de quels produits là quand on parle de produits qui augmentent la capacité, c'est ça?
Oui, c'est ça. L'impression du coup d'être plus performant, d'être plus réactif, de réfléchir mieux, d'avoir des meilleures idées, d'avoir une baisse de la fatigue aussi. Alors du coup, on parle de la cocaïne, hein, ça c'est qui s'est répandu avec un côté bonne drogue entre guillemets, quelque chose de socialement accepté, acceptable, donc associé au show business ou autre. On parle aussi des amphétamines qui sont pas nouveaux non plus, hein, qui après avec des oscillations dans les usages, un peu plus, un peu moins, bon. En tout cas, c'est présent. Donc, amphétamine, qu'on appelle aussi le speed, les méthamphétamines. Et puis après, on commence à voir apparaître, alors justement, avec l'apparition d'Internet et de la multiplication des ordinateurs à domicile et de l'accès à Internet, en lien du coup avec ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse. Donc, ce sont des molécules, donc de produits déjà existants, classés sur la liste des stupéfiants, mais qui sont du coup, qui ont des molécules un petit peu différentes et qui permettent à ces produits de ne pas être encore classés sur la liste des stupéfiants. Ce qui permet de pouvoir les commander plus ou moins légalement via Internet, se les faire livrer chez soi et en payant du coup directement. Ce qui donne un accès assez large et du coup qui est par contre un mode pour se procurer un produit un peu différent de dealer ou d'autres méthodes, donc qui sont adaptées par contre à l'environnement et la société actuelle.
Nicolas Audelin, tout à l'heure vous parliez justement de ces défis qu'on se lance via Internet pour l'alcool, et Grégoire Poupin, vous venez d'évoquer cette facilité d'achat en fait de la drogue, de ces nouveaux produits de synthèse. Est-ce que Internet, ça change effectivement la consommation de drogue? Est-ce que ça facilite l'accès? Est-ce que vous le constatez?
Ça facilite l'accès, oui, comme vient de le dire Grégoire, sur la facilité de pouvoir acheter, notamment à l'étranger, de se procurer de façon peut-être un petit peu plus anonyme par d'autres réseaux des molécules. Ça change aussi la façon dont on va être en lien dans l'usage, la façon dont on va se mettre en en démonstration sur ces réseaux sociaux par rapport à des expérimentations, des prises de risques. Bon, l'adolescence, c'est vraiment un moment où, en plus, on est dans des sortes de passages à l'acte, un peu comme ça, au niveau des prises de risques. Et ces usages-là, ils vont s'inscrire aussi dans cette façon de se montrer au monde au travers des réseaux sociaux. Hein.
Alors, vous parliez de l'usage de la cocaïne qui est de plus en plus utilisé parce que c'est une drogue qui permet d'être en meilleure capacité ou en tout cas de le croire et puis qui est aussi bien vue en fait parce que c'est lié au show business, c'est lié au people et tout ça. Est-ce qu'il y a des drogues qui sont bien vues, des drogues qui sont mal vues?
Alors, l'exemple de la cocaïne, il est assez bien. Alors, je ne sais pas si on consomme plus. En tout cas, les consommations sont toujours présentes. Il y a eu des augmentations à partir des années 2000. Actuellement, je n'ai pas en tête les chiffres à regarder sur l'FDT, mais en tout cas, la consommation est toujours présente, ça c'est certain. Après, vous voyez, la cocaïne a plutôt bonne presse, alors que le crack a plutôt mauvaise presse. Sachant que du coup, le crack, c'est de la cocaïne qui a été basée, alors soit par l'usager lui-même, avec une petite manipulation, le fait de le chauffer et d'ajouter du bicarbonate de soude ou un autre produit avec, en donnant l'impression de purifier la cocaïne, l'usager se donnant cette impression-là, le crack ayant très mauvaise presse. Finalement, ce sont deux produits identiques qui consommés, fumés principalement, ça peut être injecté aussi, mais c'est principalement fumé. Ça a des effets plus forts que la cocaïne. Par contre, du coup, le côté négatif est plus fort aussi. C'est-à-dire l'effet dépréciogène en fin d'effet de produit est aussi plus important. Donc les effets associés sont aussi, c'est plus dangereux. Et c'est vrai que pour un produit, alors en tout cas pour une base qui est identique, c'est de la cocaïne. Un est de la cocaïne forme poudre chlorhydrate. L'autre, c'est de la cocaïne qui a été un peu améliorée ou en fait qui a été un peu chimiquement changée. Mais ça reste, et du coup, qui a un impact social beaucoup plus négatif avec des gens très précarisés, des consommateurs de crack, principalement sur la région Île-de-France, qui sont très précarisés.
Dans les produits qui ont mauvaise presse aussi, celui qui traverse un peu le temps avec cette image-là, c'est l'héroïne. Souvent, nous, en entretien, quand on reçoit les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, ils commencent par nous expliquer que, au départ, au tout début de cet usage, il était hors de question pour eux de consommer cette molécule-là. Pourquoi ? Parce que, du coup, que ce soit en teuf, en free party ou même dans les milieux d'usage, à un moment donné, elle est repérée comme générant une grande dépendance physique. Et que, du coup, ça serait le produit à éviter pour éviter de se mettre en difficulté. Bon, ce qui quand même a repéré, c'est que ces jeunes-là qui viennent nous trouver la plupart du temps ont une échelle aussi de perception de risque des usages. Et s'il y a une hausse qui commence à être significative de la cocaïne ou de l'héroïne, c'est pas non plus quelque chose de massif, en tout cas qu'on retrouve nous dans les structures ici. C'est des publics bien spécifiques qu'on va accueillir, quoi.
Est-ce que le cannabis, on parlait tout à l'heure en amont des chiffres de consommation, le cannabis, la consommation semble se stabiliser. Est-ce que le cannabis est passé de mode ?
Je pense pas qu'on puisse dire ça. Ça se stabilise, passé de mode, je regarde mes collègues, mais on en voit suffisamment de personnes qui sont avec cet usage-là. On entend aussi parler ces ados qui sont dans les lycées et qui nous disent le pourcentage qu'il peut y avoir d'usagers de cannabis dans les classes. Passé de mode, ça serait un petit peu délicat. Ce qu'on voit, ce qu'on perd, c'est que selon les populations, selon les lycées, il y en a plus ou moins, mais que tous les groupes de jeunes ne vont pas forcément y avoir affaire de la même manière entre celui qui va tester l'usage, parce qu'au cours d'une soirée, il y aura un joint qui tournera, et ceux qui vont s'inscrire dans un usage régulier et quotidien, on ne sera pas sur les mêmes problématiques, sur les mêmes personnalités, sur les mêmes contextes. Je dirais pas que c'est passé de mode. Non.
Il y a une drogue qui semble par contre être un peu à la mode, c'est la MDMA, donc c'est de l'ecstasy. Est-ce que à Alia, vous avez des retours sur cette consommation-là ? Est-ce que vous constatez, vous, une mode, une consommation plus importante de ce produit-là ?
Par un biais d'une structure qui est le Carud, il y a toujours eu ce type de consommation. Sur Angers, ce serait difficile de dire qu'il y a une augmentation de ce type de produit et qu'il faudrait voir après dans les milieux étudiants si réellement il y a plus de consommation. nous, enfin, il n'y a pas d'observation particulière quant à ce produit, quoi.
Est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait avoir, on pourrait admettre une consommation festive de ce genre de ce produit? Et sinon, quelle est la limite? Enfin, quelle est la bascule? Où se fait la bascule entre une consommation festive et une consommation dépendante?
C'est bien sûr qu'il y a des c'est avant tout une consommation festive. Hein. Je crois que jamais les gens, quand ils consomment un produit, n'ont l'idée de se faire du mal. Ça peut arriver peut-être pour certains qui ne seraient pas forcément très bien, mais je pense que c'est souvent porté dans un groupe, dans un contexte festif, on veut s'amuser avec de la musique, où l'alcool a sa place, où les produits peuvent avoir leur place. Après, bien entendu, ce qui est compliqué, c'est que c'est des produits qui sont illégaux, donc ça veut dire marché noir, ça veut dire avoir affaire à des gens qui aussi veulent se faire de l'argent. Ça veut dire on ne sait pas non plus qui produit, comment c'est fabriqué, avec quoi c'est coupé. Donc effectivement, ça peut engendrer pour certaines personnes qui vont prendre un produit qui est censé leur procurer plaisir détente, ils vont se retrouver avec un produit qui donne des hallucinations qui n'étaient pas préparées. Ça peut être très angoissant. L'important, donc nous, c'est vrai qu'au sein de l'association, bien entendu qu'on a ça en tête, le côté plaisir et festif. Après, nous, on est une structure de soins, donc on accueille des gens qui sont en difficulté avec un certain nombre de consommations. Donc évidemment que du coup, on considère la situation différemment. Par contre, bien sûr qu'on intervient aussi en milieu festif, on intervient auprès de personnes qui consomment de manière festive, qui n'ont pas envie d'arrêter, pour qui, après évaluation, il n'y a pas forcément de problème. Après, c'est un choix personnel, hein, aux yeux, comme à chaque fois devant la loi. La loi donne un repère à chacun de se positionner devant un feu rouge. Vous êtes censé arrêter de respecter. Vous pouvez effectivement, vous prenez un risque en passant au rouge, sachant qu'il ne vous arrivera pas forcément quelque chose.
Votre question, elle est importante, mais ça nous ramène effectivement aux différents types d'usages qu'on va pouvoir rencontrer, les usages simples qu'on peut retrouver effectivement peut-être dans des contextes festifs qui sont pas sans danger, hein, c'est clair, mais qui sont aussi différents des usages qu'on va qualifier d'abus, qui peuvent être à des risques plus ou moins importants, et puis les usages véritablement de dépendance, où là il y a véritablement une centration sur le produit, où toute la vie de la personne va tourner autour du produit. Donc effectivement, entre un usage festif et un usage de dépendance, il y a une grande différence. Et le phénomène aussi que certains imaginent, c'est-à-dire le phénomène d'escalade passée d'un usage festif à un usage de dépendance, est loin d'être systématique. Et que pour parler des drogues, il faut effectivement surtout s'attacher au type de lien que la personne va avoir avec le produit.
Et puis dans un usage d'ecstasy, c'est aussi qu'est-ce qui va être associé à cet usage-là dans une soirée. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir repérer peut-être dans une idée de polyconsommation, c'est-à-dire quels vont être les usages d'alcool à côté, c'est de regarder les choses aussi dans leur contexte, cette façon plus globale. Et nous, c'est vrai qu'on a peut-être moins ce regard-là festif en soirée, sur un regard global sur une population, mais quand les personnes vont venir dans une structure, un centre de soins comme la nôtre, on va essayer de regarder avec elles la fonction de cet usage-là. Si à partir du moment où déjà les gens viennent nous voir, c'est qu'ils ont repéré qu'il y a peut-être de l'abus, qu'il y a quelque chose qui va dans du trop, et l'idée c'est d'essayer d'en comprendre les raisons de cet usage abusif d'une molécule.
Pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil chacun à donner à nos auditeurs dans cette approche de produits, justement, l'approche qu'ils doivent avoir des produits?
Ce que j'aurais envie de dire, c'est que dans la façon dont on accueille, nous, notamment les jeunes, hein, vu qu'on s'adresse avant tout à ce public-là aujourd'hui, on va pas être, en tout cas, dans un regard de diabolisation de l'usage, ni de banalisation. Évidemment que toutes ces molécules-là, elles sont imaginées depuis très 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 longtemps, depuis la nuit des temps, dans une recherche de plaisir. Et du coup, il s'agit pas de revenir là-dessus. C'est-à-dire que si les jeunes en consomment, c'est que probablement il y a du bénéfice à en trouver. Après, c'est peut-être de ne pas s'arrêter qu'à ça. Quand on repère qu'à un moment donné, l'usage, il y a une fréquence qui augmente, il y a quelque chose qui s'installe dans du quotidien, et puis quelque chose qui prend de plus en plus de place. Et c'est pouvoir venir interroger au-delà du plaisir, quel est mon rapport, moi, à moi individuellement, avec ce produit-là. Et est-ce que c'est juste ponctuel? Est-ce que je peux m'en détacher aussi facilement?
À partir du moment où il y a transgression de l'interdit, puisqu'on sait que de toute façon, va y avoir consommation, ce qu'on peut essayer de préconiser, c'est de prendre le risque minimal par rapport au risque lié aux usages.
Grégoire Poupin. Oui.
Moi, l'idée là sur une personne qui aurait envie de consommer, qui se pose des questions, qui a consommé, l'important c'est de s'informer. Donc ne pas hésiter, c'est pas parce que les produits sont interdits qu'il est interdit de demander des informations sur ces mêmes produits. L'idée c'est de pouvoir contacter, donc dans chaque département de France, il y a un CARUD, un XAPA, qui sont gérés par des associations. Donc CARUD, centre d'accueil d'accompagnement, la réduction des risques pour usagers de drogue. XAPA, c'est centre de soins d'accompagnement et de prévention d'addictologie. Bien entendu qu'on s'occupe des gens qui ont des problèmes, des difficultés, mais on n'aborde pas que dans ce sens-là non plus. L'idée, c'est aussi de pouvoir répondre, d'informer les gens qui n'ont pas de problème et qui ont consommé, qui envisageraient de consommer autre un produit et qui veulent avoir une information objective. On peut se renseigner aussi sur Internet, on peut aller sur les AFR, Association Française de Réduction des Risques, sur la Fédération Addiction, il y a vraiment des sites qui sont bien documentés. Et voilà, ce n'est pas qu'en termes de forcément que de problèmes, mais informez-vous.
Merci à vous trois d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Angers. Aléa, je le rappelle, c'est donc l'Association Ligérienne d'Addictologie. Elle est basée à Angers, bien sûr, et aussi à Cholet et à Saumur. Soutien, information, écoute, conseil, ils sont là pour répondre à vos questions et vous accompagner en cas d'addiction aux drogues, à l'alcool et même aux jeux de hasard, à la cyberdépendance et aux achats compulsifs. Vous avez entendu Grégoire Poupin à la fin de l'interview. Si vous souhaitez plus d'infos, je vous laisse les coordonnées d'Aléa, 02 41 47 47 37 ou le www.alia49.fr. Tout de suite dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, on écoute Pétrole, Smell of Rain.
Picture. the creek so far. So I just dream, so I just crash. So all our night is just a war.
Et dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, c'est l'heure de retrouver Quentin pour sa chronique géopolitique. L'Ukraine qui fait la une de l'actualité ne doit pas occulter un autre dossier dans lequel la Russie s'est beaucoup investie, la guerre en Syrie.
Il y a 3 ans, jour pour jour, mouraient les premiers manifestants contre le régime de Bachar al-Assad. Depuis, le conflit n'a eu de cesse de se complexifier et a dégénéré en guerre civile. Plus de 140 000 morts, plusieurs millions de réfugiés dans les pays limitrophes et plusieurs millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie. Ce compte augmente quotidiennement, accentué par le blocus de l'armée syrienne qui empêche l'intervention d'organisations humanitaires.
Comment en est-on arrivé là ?
Ce qui a principalement aggravé la situation, c'est l'arrivée rapide d'un très grand nombre de combattants de tous bords. Les manifestations ont débuté au sud, dans la ville de Dera, pour protester contre l'emprisonnement de jeunes tagueurs opposés au gouvernement. Puis la fronde s'est étendue à tout le pays. Assad décida alors de réprimer durement les rassemblements. C'est à ce moment que des groupes armés ont commencé à se constituer. Le premier fut l'armée syrienne libre. Celle-ci est reliée au Conseil national syrien, un mouvement politique désireux de renverser le gouvernement et d'avancer vers la démocratie. À l'heure actuelle, l'armée syrienne libre ne représente qu'une toute petite fraction des belligérants. De fait, même si le Conseil national syrien est le seul interlocuteur public dans les relations internationales, il n'a aucune force sur le terrain et aucune force de représentation. Comme conséquence directe, on observe l'échec inéluctable des négociations orchestrées à Genève, dont la dernière en date fin janvier.
Quelles sont les autres forces en place ?
Parlons d'abord des forces rebelles. Outre l'armée syrienne libre, elles sont très nombreuses. Il y a des groupes purement terroristes menant leur représentation du djihad. Je ne parle pas des quelques terroristes venus d'Europe, mais bien de groupes organisés ayant parfois fait leurs armes dans d'autres pays. Entre autres, il y a Al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, et une faction appelée l'État islamique en Irak et au Levant. Ensuite, il y a des islamistes armés et informés par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ces deux nations souhaitent rétablir un régime sunnite dans un pays qui l'est à 70%. Leur dessein est la restitution d'une homogénéité dans le monde arabe, une homogénéité à leur avantage. Certaines analyses suggèrent l'existence de plus de 2000 groupes armés différents et autant d'autorités différentes qui ne se coordonnent pas. Ils n'ont même pas la même vision de l'avenir pour la Syrie et perçoivent la religion, facteur essentiel du conflit, de manière diverse. On observe des heurts sanglants entre ces groupes rebelles.
Et du côté de Bachar al-Assad ?
Assad possède tout d'abord son armée, qui n'est pas seule. Je parle de groupes financés une fois encore par des puissances avoisinantes. Oui, toute la région se mêle au conflit de son voisin syrien. Le régime de Bachar al-Assad reçoit des soutiens logistiques et militaires de la part de deux alliés, le Hezbollah libanais et l'Iran. Ces deux entités cherchent à maintenir leur influence dans la région en soutenant la seule puissance arabe encore dirigée par des chiites. Pas question pour l'Iran de se retrouver soudainement isolé au Moyen-Orient.
Cela explique la situation en place. Comment se fait-il que la communauté internationale se montre impuissante ?
Une fois encore, les soutiens sont variés. Les pays du Golfe, les États-Unis et d'autres pays occidentaux s'opposent à l'Iran, la Chine et la Russie. La Chine, premier partenaire commercial de la Russie, tente de maintenir de bonnes relations avec la Russie, de cultiver ses intérêts pétroliers et d'éviter un scénario libyen. La Russie a des raisons plus complexes. Historiquement, les rapports russo-syriens sont forts. Ils cristallisent la volonté de Moscou d'affirmer sa bonne entente avec l'ensemble des pays du Proche et Moyen-Orient et représentent la principale réussite russe en ce sens. La Russie post-soviétique veut se réaffirmer depuis l'effondrement de l'URSS. La Syrie, qui est le pivot d'une région peu tournée vers les États-Unis, devient donc une indispensable alliée de Poutine. Le président russe intègre également son soutien à la Syrie dans le cadre global d'une stratégie d'influence militaire. Comme on le voit en Crimée, la Russie se sent le besoin vital d'affirmer sa puissance navale sur la mer Noire et donc son accès à la Méditerranée. La marine russe possède une base navale en Syrie, à Tartous. Cette base de petite envergure demande à être développée, mais représente la possibilité d'une escale avant l'accession aux océans Atlantique et Indien. Poutine ne lâchera jamais Assad, car la Syrie représente son bastion dans une région qu'il ne peut se permettre d'abandonner à l'influence américaine.
Et comme on le voit en Ukraine, l'Europe et les États-Unis se montrent incapables de trouver les bons leviers diplomatiques pour faire évoluer la situation dans leur sens. Merci Quentin pour cette chronique, on te retrouvera donc mardi prochain. On vous en a parlé sur notre antenne du Joker's Pub, on vous en a beaucoup parlé, c'est le nouveau café-concert du centre-ville. Et bien vendredi, celui-là, celui qui vient le 21 mars, c'est une grosse date pour le Joker's. Ce sera un triple live à partir de 20h30 avec Kids of Mass, Polaroid 3 et un DJ set de George Walters. Pour vous parler de la soirée, nous avons interviewé Christine, la chanteuse de Polaroid 3, by phone from Strasbourg. Bonjour Christine.
Bonjour.
Vous êtes la chanteuse de Polaroid 3. Alors Polaroid 3, c'est un nom très warholien, le pop art, l'univers d'Andy Warhol. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour votre trio ou pas du tout?
Andy Warhol, non, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, quand on cherchait un nom de groupe, il se trouve qu'on on était en train de regarder des trucs, on est tombé sur des images d'Andy Warhol, on s'est dit tiens... Tiens, pourquoi pas Polaroid, voilà, parce que ça nous faisait penser, enfin on aimait bien le côté, enfin, associer quelque chose qui fait penser à de l'image, puisque c'est de la photo, à la musique. Voilà, parce que on fait une musique qui, je pense, est assez atmosphérique comme ça, c'est, pas dire musique visuelle, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai que des retours du public ou de la presse qu'on a pu avoir... parfois, on nous dit que c'est une musique un peu cinématographique. Les textes sont assez surréalistes. Ils peuvent évoquer des ambiances un peu troubles.
C'est assez difficile de résumer votre style. On parle de pop, d'électro, un peu expérimental. Vous vous définiriez comment ?
C'est compliqué, c'est des chansons, j'aurais envie de dire. Trouver toujours des qualificatifs, enfin plutôt des styles, c'est pas évident. C'est des chansons, voilà, je dirais. Donc de la pop, oui, bien sûr, mais la pop avec un côté électro, ça c'est sûr, puisqu'on utilise beaucoup d'effets sonores, de l'électronique et des synthés aussi, etc. Voilà, donc il y a peut-être électropop, il y a un côté vintage. On nous a renvoyé parfois que ça pouvait penser qu'il y avait un côté new wave parfois dans certaines chansons, qui peuvent, certaines sons de synthé peut-être qui peuvent faire penser à certains sons des années 80. Voilà, donc côté post-rock aussi. Donc voilà, peut-être aussi parce que nous-mêmes on vient de musique assez différente. À la base, c'est vrai que Polaroid 3, ça existe depuis 2011. Mais en fait, Christophe, Francesco et moi, on se connaît depuis beaucoup plus longtemps, une dizaine d'années. Et on a fait de la musique dans différents groupes et surtout dans différents styles de musique. On vient du jazz, des musiques improvisées. On a fait... moi, personnellement, j'ai fait aussi des musiques traditionnelles. J'ai fait des tas de trucs très différents de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc ça, c'est surtout ça, je crois, qui a nourri le groupe, plus que des influences directes, enfin, dans le sens où on se dit pas, tiens, on a envie que ça ressemble à ça ou à ça, on n'en savait rien qu'on a commencé, on avait juste envie de faire de la musique ensemble. Et puis, moi, j'ai commencé à écrire mes propres textes, et je crois que c'est venu de là au début. On faisait de la musique de plus en plus binaire, on travaillait de plus en plus avec de l'électronique, empiler des couches sonores, des strates, à triturer le son dans tous les sens. Et voilà, ça a pris cette direction donc plus pop. Voilà, disons qu'on fait toujours d'ailleurs d'autres choses. Donc c'est un peu difficile de se mettre toujours dans des catégories. C'est peut-être ce qui fait... un peu la richesse du groupe aussi, toutes ces recherches sonores et cette envie de pas formater la musique d'une manière ou d'une autre, quoi.
Alors justement, vous évoquez les recherches sonores. Comment vous travaillez? C'est quoi votre démarche pour arriver au résultat que vous apportez vendredi d'ailleurs aux Angevins?
Ouais, ben on part des textes quand même. J'amène des textes, j'amène une mélodie. parfois une grille d'accords, un riff, disons j'amène la base de la chanson. Et puis ensuite on travaille vraiment à trois sur les arrangements, on passe beaucoup de temps sur chaque chanson. C'est vrai qu'on nous dit « Ah, mais vous n'avez pas encore sorti d'album », ça, ben, on est assez perfectionniste. Donc voilà, on passe du temps, on cherche dans tous les sens, on bidouille, on s'amuse. Voilà, et puis parfois, ben, la mélodie de départ, elle peut partir complètement ailleurs. Enfin, on travaille en tout cas vraiment à trois.
Vous jouez vendredi donc dans un café-concert qui vient d'ouvrir à Angers, le Joker's Pub. Vous ouais. aimez ce genre de lieu, les cafés-concerts, le milieu un petit peu underground ou non institutionnalisé de la musique et des scènes ?
Ben, on préfère même parce que bon, on a l'impression que ça colle plus à... qu'on va trouver un public qui est peut-être plus à même d'apprécier notre musique. Voilà, après, oui, on a joué dans pas mal de clubs. C'est vrai qu'il y a aussi une proximité avec le public et puis on peut aussi parler avec eux à la fin du concert, ça c'est quand même vachement sympa. Donc oui, puis on est très content de jouer à Angers parce que c'est vrai que jusqu'à présent on a souvent plutôt joué dans l'Est en fait, dans l'Est de la France et puis en Allemagne, au Kosovo, donc l'Ouest de la France on n'y est pas encore allé, donc on est très content. Voilà.
Il faut s'attendre à quoi quand on va vous voir Polaroid 3? Ça change quoi dans votre performance de jouer dans un café-concert justement, parce que vos concerts donnent beaucoup de place à l'image, à la lumière? Est-ce que la disposition du concert va être changée du fait de jouer dans un café-concert ou...
Bah, un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a commencé à faire un travail sur vraiment de scène, qu'on va poursuivre d'ailleurs en résidence avec des scénographes et un directeur artistique là, au mois de septembre-octobre 2014. Là. Et c'est vrai que bon, on est assez attaché à l'ambiance, quoi. C'est vrai que parfois, dans des clubs, il n'y a pas trop de lumière. Il y a, bon, voilà, il y a la technique qui a sur place. Donc, c'est vrai que ça manque un petit peu, ça, quand on est parfois... comment dire ? On ressent le besoin d'un espèce de quatrième mur, comme on dit au théâtre. C'est-à-dire, non pas pour se couper du public, pas du tout, mais c'est quand même une musique qui est assez... il faut qu'on rentre dedans, etc. Moi, je suis quand même assez statique. Donc c'est pas quelque chose comme certains concerts de rock ou de pop, on va chercher le public, on communique, etc. C'est quand même plutôt énigmatique, plutôt. Donc c'est vrai qu'on c'est quand même sympa quand il y a de la lumière, quand il y a un peu d'effet de scénographie. Donc bon, bah quand c'est pas le cas, c'est pas grave, hein. Mais c'est ça qui change un petit peu par rapport à une salle plus équipée, quoi. Mais encore une fois, par contre, ce qui est bien, c'est ce rapport au public qu'on peut avoir. Dans les clubs, qui est quand même très, très, très sympa, quoi.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez surtout joué dans l'Est et qu'en fait, l'Ouest, vous ne connaissiez pas beaucoup. Vous venez de Strasbourg. Comment elle va, la scène musicale strasbourgeoise?
Comment elle va? C'est une bonne question. Eh bien, bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même de la chance à Strasbourg parce que... on est assez bien... comment dire? Les institutions... font pas mal de choses quand même pour la musique, j'ai l'impression, par rapport à d'autres régions de France en tout cas. Hein, y a pas mal de budget qui est alloué à, bon, à la culture en général, dont la musique. Maintenant, c'est vrai que c'est une culture qui est assez institutionnelle et que justement, nous on trouve toujours qu'il n'y a pas assez de clubs, voilà, de petits clubs, de moyennes salles. Alors on est en passe d'avoir une deuxième SMAC là à Strasbourg, donc c'est pas rien. Il y a pas mal de salles de concerts, mais le format des jauges moyennes et des petits clubs, il n'y en a pas énormément. Voilà, il y en a quand même. Hein.
Et en termes de groupes, de mouvements
Alors par contre, au niveau des groupes, il y a énormément de musiciens à Strasbourg, par rapport à la taille de la ville. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'écoles de musique, il y a le conservatoire de Strasbourg qui est assez réputé, il a une classe, bon, au début c'était une classe de jazz, c'était quand même assez pionnier là-dedans, et puis maintenant une classe de musique actuelle, il y a énormément d'écoles, énormément de chorales, énormément de... voilà, donc je pense qu'il y a un public amateur déjà énorme qui pratique la musique, donc ça veut dire que potentiellement c'est aussi des gens qui vont au concert, et ça c'est vachement bien, parce qu'évidemment s'il n'y a pas de public, il n'y a pas... forcément, il y a moins d'occasions de se produire. Donc, je crois qu'il y a un public assez exigeant aussi à Strasbourg. et beaucoup de musiciens. Donc on est assez, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une scène vraiment créative et intéressante. Voilà, maintenant, bon, c'est un peu les lieux qui manquent, mais on n'est pas loin de l'Allemagne, donc voilà, on est bien situé aussi par rapport à ça, on n'est pas loin de Paris, on n'est pas loin de la Belgique.
Pour conclure, Christine, quels sont les projets de Polaroid 3 pour l'année à venir, hein, 2014?
Et ben justement l'album,
enfin.
Toujours. Voilà, donc on espère qu'il sortira à l'automne 2014. On travaille dessus actuellement. Et puis on va faire une nouvelle création aussi avec des cordes. Donc on sera en résidence en octobre pour faire un spectacle. On va travailler avec deux scénographes qui vont essayer de mettre un petit peu en scène l'univers de Polaroid 3. Je peux pas trop vous en dévoiler pour l'instant, mais voilà, pour mettre en évidence un peu ce côté énigmatique, trouble, avec des installations de miroirs réfléchissants, etc. C'est vrai que la musique Polaroid, enfin, moi j'aime bien dire parfois que c'est un peu comme un trompe-l'œil sonore, c'est-à-dire que parfois il y a tellement de strates, de sons, de couches qu'on ne sait plus d'où vient le son, est-ce que c'est moi et mes effets, est-ce que c'est les synthés, quels synthés, bon, une espèce de brouillage de pistes, et on va essayer de réaliser aussi scénographiquement ce truc-là avec des installations de miroirs et tout ça, des jeux de lumière. Donc voilà, donc ça sera un spectacle qui, donc la première création aura lieu en novembre 2014 et puis la sortie de l'album.
Merci beaucoup Christine.
Merci
et
à
donc,
vous.
On se dit à vendredi à Angers au Joker's Pub.
Merci.
Et tout de suite sur Radio Campus Angers, on reste dans l'ambiance de Polaroid 3 avec un de leurs titres, The Suburbs of Secret. Heroic 3 en live donc au Jokers, vendredi 21 mars, vendredi qui vient. On est mardi et vous savez ce qui se passe le mardi dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. C'est la chronique politique de Pierre-Antoine. En début d'année, le président de la République a annoncé la mise en place d'un pacte de responsabilité. François Hollande souhaite la mise en place d'un donnant-donnant avec le patronat. En échange d'une réduction de charges fiscales, le patronat devait promettre 1 million d'emplois. Le MEDEF avait alors refusé de s'engager sur des embauches chiffrées. Aujourd'hui, 4 syndicats descendent dans la rue pour dénoncer la reculade du gouvernement.
Il était déconseillé de prendre la voiture aujourd'hui. Non, je vous vois venir, ne vous en faites pas, ce n'est pas à cause de la pollution atmosphérique, mais de l'appel à la manifestation de 4 syndicats. Alors que les médias n'en parlaient plus, Force Ouvrière, Solidaire, FSU et CGT ont décidé d'une action commune dans 140 villes de France. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, dénonce un pacte de complaisance et il était optimiste quant à la mobilisation. Il y a plus d'appels à des grèves et à des manifestations que d'habitude, déclare-t-il à l'AFP. Optimiste le Jean-Claude. Et les faits ont lui donné raison. À moins d'une semaine des municipales, des milliers de personnes sont descendues dans les rues à Paris, Marseille ou encore à Rennes. Thierry Lepan expliquait ce matin à Jean-Michel Apathy pourquoi il fallait manifester aujourd'hui.
Je pense que nous avons essayé d'être responsables dans une situation particulièrement dramatique pour les salariés qui ne voient pas leur salaire augmenter, qui voient la courbe du chômage augmenter et celle des dividendes également. Donc notre responsabilité à nous, c'est d'essayer de faire en sorte que les salariés s'occupent, j'allais presque dire enfin, de leurs affaires et qu'ils manifestent à nos côtés et profitent de cette journée d'action intersyndicale, journée d'action unitaire pour les salaires, l'emploi, le droit à la retraite, le financement de la protection sociale et bien évidemment contre le pacte d'irresponsabilité passerait entre Pierre Gattaz et François Hollande.
Un pacte d'irresponsabilité pour Le Pen, et si les manifestants ont bien montré leur opposition, notamment en scandant non au pacte Hollande-Gattaz, les responsables syndicaux dénoncent toute récupération politique. La mobilisation n'a rien à voir avec les élections et reste dans un registre social et syndical pour FO. Récupération politique, ça en a tout l'air, du moins de la part du Front de Gauche et du NPA, qui se mobilisent derrière les syndicats contre ce pacte qui est une fuite en avant un peu irresponsable, selon Pierre Laurent, numéro 1 du Parti communiste, un parti pourtant allié des socialistes dans de nombreuses villes pour les municipales. Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, estime que ce pacte n'est en rien une garantie pour une relance de l'emploi et il va coûter très cher à chacun des citoyens.
Un constat qui n'est pas partagé par tout le monde.
Et même au cœur des syndicats, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, syndicats des salariés, ont décidé de ne pas s'associer à la manifestation qui serait confisquée par Force Ouvrière et la CGT. C'est une manifestation fourre-tout, on n'a pas du tout de gêne à ne pas y être et on n'a pas eu de remontée de nos troupes nous disant qu'on aurait aimé y aller, a déclaré Laurent Berger de la CFDT. Il ajoute que ce pacte est un moyen de redonner de l'espace à de l'activité économique pour créer de l'emploi. Même discours au gouvernement, à l'origine des discussions entre syndicats et patrons, qui souhaitent voir son projet aboutir. Les choses avancent et on est à tout près de l'aboutissement sur la partie coût du travail et fiscalité du pacte, indique le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le ministre du Travail, Michel Sapin, est lui aussi descendu dans les médias pour défendre son projet. C'était sur RTL ce matin.
Sur un sujet aussi fondamental que ce pacte de responsabilité qui est là pour approfondir et pour accélérer, pour faire en sorte que l'année 2014 soit l'année de la bascule vers plus de croissance et vers plus d'emplois, il faut évidemment que ceux qui animent l'entreprise, ceux qui animent le tissu économique français, les partenaires sociaux, patronats et syndicats, puissent en parler. Tous les ans, depuis 2008, zéro croissance, zéro croissance, zéro croissance. 2014, c'est l'année où ça redémarre. Et l'enjeu, c'est que ça redémarre pas petit, mais que ça redémarre suffisamment pour pouvoir, sur le front fondamental, celui du chômage, celui où nous avons avancé, mais où nous n'avons pas fait la percée nécessaire, eh bien, il faut pouvoir accélérer.
Le gouvernement devrait engager sa responsabilité devant le Parlement en avril, une opération qui devrait être sans danger, du moins. Du côté du patronat, on se frotte les mains et à ceux qui, à l'instar de Annie Coupé, porte-parole de l'Union syndicale solidaire, parlent de nouveaux cadeaux aux entreprises, Pierre Gattaz a sa réponse toute prête. Le président du MEDEF estime que ceux qui parlent de cadeaux aux entreprises n'ont pas bien compris comment le monde fonctionne. Il faut qu'on comprenne que c'est par l'entreprise qu'on créera de l'emploi et qu'on intégrera des minorités, les jeunes, etc. Ajouter celui qui a signé l'accord avec la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC en début mars, permettant ainsi de mettre en route le processus. En tout cas, l'amour entre le grand patronat et l'Élysée est si grand que Julie Gayet devrait faire attention. Gattaz pourrait bien prendre sa place.
Merci Pierre-Antoine pour ce regard toujours affûté sur l'actualité politique. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée Angevine présentée par Marin, notre stagiaire cette semaine. Alors Marin, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?
Donc pour cette journée du festival Les Trois Coups à la Cato sera joué Molière au carré de Bastien Tracou, où deux farces de Molière sont réunies pour n'en faire qu'une. La pièce est à 20h et l'entrée coûte 4 ou 6 euros. À 20h15, au 400 coups, aura lieu une ciné-danse sur le film West Side Story de Robert Wise et Jérôme Roblin. Cette projection est organisée par le CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers. Le prix est de 4 à 7,60 euros. Cinéma toujours avec une rencontre autour du film Le Pianiste de Roman Polanski à l'espace culturel de l'université à 20h30. Comme tous les mardis soirs, au Terroir Coco est organisé un Bœuf Blues. L'entrée est gratuite. À 21h est organisée une soirée irlandaise ou welsh. On en profitera aussi pour fêter les printemps des poèmes. Il est trop tard, mais je vous le dis quand même. C'est ce soir que la création de Sylvain Creusevaux est jouée pour la première fois. C'est une reprise de Capital de Karl Marx. Il sera joué pendant 10 jours au quai.
Et demain, qu'est-ce qu'on fait, Marin ?
Pour sa troisième journée, les trois coups laissent place à l'improvisation avec trois associations angevines. C'est à 20h et les tarifs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire 4 à 6 euros. Demain soir, deux concerts sont organisés. Le Café Latin accueillera Organon, Biche et Duvet Boa à 20h et le Terroir Coco recevra le groupe Sakia à 21h30. Un après-concert est organisé avec Sweet Gum Tree au Shabada. C'est à 19h et c'est gratuit. Et enfin, demain soir, une soirée est organisée au Bazar. Nous pourrons retrouver George Gelters et Mickey House qui mixeront chacun 2 heures. Et tout cela sera rediffusé sur Radio Campus Angers.
Merci Marin. Une soirée rediffusée en direct et en public sur le 103 FM. Voilà, il est l'heure de débrancher les hydrophones. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.radiocampusangers.com. À 21h sur le 103 FM, ce sera The Johnny Clash Show. Et j'ai envie de dire bonsoir Johnny Clash.
Salut Tiffany.
Alors qu'est-ce que tu vas nous passer ce soir comme... musique.
Eh ben, c'est marrant. Tu sais quoi, tout à l'heure, tu nous as parlé des drogues chez les jeunes.
Effectivement.
Moi, je vais faire une émission spéciale sur un groupe qui s'appelle The War on Drugs, la guerre contre les drogues.
T'es si bilingue.
Ils viennent de sortir leur troisième album, il est super. Johnny Clash en parle.
L'ancien groupe de Kurt Vile.
Exactement.
C'est donc à 21h sur le 103 FM. Merci, Johnny Clash. On vous laisse avec la bulle sonore. Maxime Tête a ouvert sa confiserie So British il y a un an à Angers. Il participe au prix MoveJ qui récompense les jeunes entrepreneurs. Et oui, il n'a que 23 ans. Écoutez-le parler bon bec. L'interview entière est à retrouver sur notre site internet. Et profitez donc de votre passage pour voter pour son projet sur le site de MoveJ. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve jeudi à 19h. Allez, bisous. C'est quoi votre histoire avec les bonbons, Maxime Dead? Vous en mangez depuis, vous avez quel âge?
J'en mange depuis que je suis gamin. Et en fait, en Angleterre, tout le monde en mange. Mais adultes et enfants. Et en France, il y a une culture culinaire. On adore manger. Et on adore goûter des choses nouvelles. Ça se ressent sur les marchés, les ouvertures de boutiques différentes. Et le bonbon, c'est un domaine qui ne connaît pas vraiment la crise, parce que c'est un achat d'impulsion. Donc voilà, depuis tout petit, on a eu envie de partager cette histoire-là. J'ai de la famille en France et de la famille en Angleterre. On a commencé à amener de plus en plus de produits d'Angleterre pour nos amis. Et du coup, je me suis dit, bon bah, je vais prendre l'idée de mon père et je vais ouvrir une boutique carrément.
Il y a une différence entre la consommation anglaise de bonbons et la consommation française?
Ouais.
À part l'âge?
Il y a une différence dans le style de consommation. Moi, je fais le tri des 600 références en Angleterre et de celles que j'ai en boutique. En boutique, j'en ai 180. Et en Angleterre, il y en a entre 500 et 800.
Et comment vous le faites, ce tri?
En fonction de mes goûts, en fonction des goûts de mes clients, de ce qu'on me demande. Et je regarde ce qui fonctionne bien. En ce moment, il y a champagne rosé qui marche bien et pissenlit bardane.
Pissenlit bardane. C'est quoi la bardane?
En fait, ça, ce sont des plantes. Et pissenlit bardane, c'est le nom d'une boisson en Angleterre. Dandelion and burdock. Les Anglais qui écouteront, ils connaissent cette boisson-là.
Et alors, vous parlez là des bonbons anglais avec des noms et des goûts bien spécifiques. C'est quoi la différence entre ce qu'on a, nous, en France, l'offre qu'on a en France et l'offre anglaise?
Bon, en France, on a des fabricants installés depuis des siècles qui font de la confiserie traditionnelle, essentiellement des bonbons un peu plus durs, qu'on retrouve dans les Vosges, Flavigny. En Angleterre, ils sont axés sur les goûts et les colorants naturels, axés sur le sans gélatine, sur le sans gluten. Ça fait une dizaine d'années qu'ils sont bien en avance là-dessus. Et donc en France, c'est ce qu'on recherche. Des produits de qualité que j'importe d'Angleterre. Je choisis minutieusement les fournisseurs, des fabricants qui sont installés depuis 1850, depuis le début du XXe siècle. Et c'est ça qui fait la richesse du projet, c'est que ces bonbons-là, qualitativement, n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve sur le marché français, en supermarché. Bon, ça, ce sont les industriels qui font ça en Angleterre aussi, mais un peu mieux, bizarrement. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.